France Inter.
L'essayiste, enseignante et historienne Laure Murat a non seulement enseigné aux Beaux-Arts, mais aussi écrit dans le magazine Beaux-Arts, ce qui n'a aucun rapport, je devais donc le souligner. Œuvrant dans la presse écrite et à la radio, celle qui a aussi été écrivain fantôme avant d'écrire ses propres livres, a notamment publié La maison du docteur Blanche, histoire d'un asile et de ses pensionnaires de Nerval à Maupassant, Passage de l'Odéon, L'homme qui se prenait pour Napoléon, couronné par le prix Femina de l'essai, Qui annule quoi sur la cancel culture, ou encore Proust, roman familial, lauréat du prix Médicis. Elle vient de faire paraître Toutes les époques sont dégueulasses, réécrire, sensibiliser, contextualiser chez Verdier, dans lequel elle poursuit sa réflexion sur la cancel culture en s'intéressant à la réécriture de classiques pour en noter les éléments racistes, misogynes ou dérangeants pour les sensibilités contemporaines. Elle passe en revue les différentes possibilités d'accès à des textes supposés problématiques. Vaut-il mieux ne pas les lire, ou alors ne pas les retoucher mais les approcher par une préface remettant l'œuvre en contexte? Et d'ailleurs, se demande-t-elle, ces précautions sont-elles vraiment morales? Qu'en est-il de l'aspect financier de ces modifications supposément vertueuses? Vous le saurez dans un instant en écoutant cette émission évidemment passionnante. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Laure Murat.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée?
Le livre de Nathalie Quintane, sur son chat Chemoul. C'est très drôle. Et je crois qu'il suffit de citer la quatrième de couverture, je la citer de mémoire, hein, il y a deux lignes. Et vous croyez qu'on est privé, il ne nous manque que la parole, mais c'est que vous êtes sourdingue.
Alors, vous avez un peu raconté votre vie, un peu, bon, c'est un euphémisme, dans Proust, roman familial. Est-ce que vous me permettez de parler un peu de votre famille?
Allez-y.
Que des choses publiques, évidemment. Enfant, votre mère présentait vos sœurs et votre frère en disant « Voici mes filles, voici mon fils. » Et pour vous, et ça, c'est le numéro 3. Une place, vous l'avez compris plus tard, qui fut pour vous déterminante. Est-ce que vous vous sentez toujours ce numéro?
Non. Non, je ne crois pas que je sois un numéro. Mais cette remarque de ma mère ne me froissait pas. Ça n'était pas dérangeant pour moi. J'étais assez contente, au fond, de n'être ni agrégée aux filles, ni évidemment aux fils. Ça ne m'a jamais dérangée. Alors, c'est après, on peut se dire, quand même, c'est curieux. Mais je crois qu'il ne faut pas en faire plus que ce que ça n'est. Voilà.
Vous sentiez déjà différente pendant les vacances dans un château dans lequel vos sœurs et cousines étaient en robe à smock? Et vous, à 4 ans, en salopette avec un t-shirt Robin des Bois, l'un de vos héros.
Oui, ah oui, et ça l'est resté quand même. Le dessin animé de Walt Disney a été un éblouissement. J'ai adoré ce film. Ah oui, le renard en plus, hein, le goupil qui va prendre aux riches pour distribuer aux pauvres, ça me parlait beaucoup.
Vous avez eu le prix Femina pour votre essai « L'homme qui se prenait pour Napoléon » pour une histoire politique de la folie. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser au fait que votre père s'appelait Napoléon Murat. Il n'y a aucun lien?
Alors, il n'y a aucun lien avec le titre, mais en revanche, c'est un livre que j'ai songé à un moment donné dédié à sa mémoire. Et je n'ai pas pu, parce que je ne pouvais pas dédier à un homme qui s'appelait Napoléon un livre qui s'appelait « L'homme qui se prenait pour Napoléon ».
Vous l'aimiez beaucoup? Votre père, les rapports furent plus douloureux avec votre mère. Est-ce qu'on se construit toujours avec ou contre ses parents? Est-ce que l'affranchissement total est possible?
L'affranchissement ou l'émancipation, elle est toujours souhaitable. Même quand on aime ses deux parents, ce qui était mon cas d'ailleurs. Hein. Mais quelquefois, c'est plus difficile de s'émanciper de quelqu'un qu'on a énormément aimé, comme j'adorais mon père, et à un moment donné, enfin, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas commencer une phrase sans le citer, sans me rappeler sa mémoire, etc., etc. C'est fini. Et puis après, bien sûr, on peut aussi se construire contre, et à regret, je dirais, hein, quelqu'un qui, voilà, avec lequel on a plus de difficultés. Et puis, pardon pour la palissade, mais... Avec le temps, les choses se tassent Et voilà, on vit sa vie. Et on vit avec, plutôt que contre, ou, vous voyez, on vit avec, ça va.
Vous dites de votre père qu'il était à la fois très libre et aliéné par son milieu. Il a produit les premiers films de Louis Malle, il a participé à l'aventure des Cahiers de Lerne, il a écrit des scénarios, et c'est lui qui vous a donné le goût de la littérature et du cinéma.
Ah oui, ça c'est certain, parce que je parlais beaucoup avec lui. C'était un homme très cultivé, très drôle, très charmant, et qui avait une bibliothèque dans laquelle j'ai puisé abondamment. Et on parlait de tout ça, et il en parlait bien, il en parlait avec beaucoup de verve, et il m'a donné le goût de ça, certainement.
Est-ce que vous soulignez aussi au stylo ou au stabilo dans les Pléiades et les livres, comme lui ?
Non, mais enfin, qu'il le fasse ne me choquait pas du tout, je trouvais ça plutôt rigolo. Moi, je peux écrire dans les livres, j'écris souvent à la fin des livres, pas nécessairement sur les pages, je gribouille pas dessus, etc. Mais chacun fait l'usage qu'il veut des livres, hein, c'est fait pour ça, de toute façon.
Moi, je suis dans l'équipe des gens qui soulignent.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
La question des violences faites aux femmes était avant, il y a 20 ans, 30 ans, une question privée. Vous savez, les violences contre les hommes sont dans l'espace public. Les violences contre les femmes sont majoritairement dans l'espace privé. Et il y a encore des femmes qui n'osent pas aller porter plainte, qui parfois aussi trouvent que c'est elles qui sont responsables d'avoir un mari violent. Donc il y a vraiment besoin encore d'en parler. En ayant plus de femmes dans les parlements, je crois que dans les parlements, dans les communes, dans les assemblées élues, dans tous les centres de décision, je crois que lorsqu'il y aura un équilibre entre les femmes et les hommes dans les instances décisionnelles, il y aura déjà moins de violence.
Laure Murat, vous avez suivi le séminaire de Françoise Gaspard qu'on entend en 2010 et de Didier Ribon à l'EHESS et ça a été un éblouissement.
Oui, ça a été passionnant parce que Françoise Gaspard et Didier Ribon faisaient venir des gens du monde entier d'abord. C'est là où j'ai rencontré Judith Butler, c'est là où j'ai mieux connu Anne Garetta. Enfin, il y avait des gens extraordinaires. Et une vraie appétence pour ce champ qui était quand même très neuf à l'époque, en tout cas en France, puisqu'il n'avait pas de droit de cité dans aucune université. Donc c'était la première fois, ça s'appelait sociologie des homosexualités, et c'était excitant comme un champ qui s'ouvre.
Votre thèse était l'invention du troisième sexe, sexe et genre dans l'histoire culturelle. Qu'avez-vous appris de majeur en la rédigeant ?
Oula, j'ai appris énormément de choses, et notamment d'où je venais, de quels préjugés, de quelles strates psychiatriques, morales, religieuses, etc. Ces divisions sexuées étaient empreintes, et ça a été très important. J'ai aussi appris les stratégies pour essayer de sortir de ce binarisme. Et ça a été très important pour moi.
Vous avez lu la recherche de Proust vers 20 ans. Est-ce que ça coïncidait avec cette période ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai rédigé ma thèse très tard. J'avais, je ne sais plus, 36, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'avais déjà lu une fois. Et je l'ai relu pour les besoins de la thèse, justement, puisque j'ai analysé cette fameuse théorie du troisième sexe que Proust défend, hein, à laquelle il croit, pour ces besoins-là. Et ça a été une lecture très intéressante, comme si je mettais des lunettes roses pour lire la recherche en soulignant alors justement tous les passages concernant l'homosexualité, ce qui est absolument considérable, évidemment, puisque l'homosexualité hante la recherche depuis le début.
Et vous dites qu'elle est prise par Proust au sérieux. Et ce fut la deuxième révélation qui eut lieu en lisant la recherche, puisque la première, c'est que vous avez reconnu votre milieu social, qui était pour vous une forme vide, vous en êtes émancipé. La seconde, c'est qu'il prenait l'homosexualité au sérieux.
Oui, donc dans les deux cas, c'était une ouverture pour moi, c'était déjà une émancipation. Bon, la première fois, je ne suis pas sûre d'avoir compris tout ce que j'ai écrit dans Proust Roman Familial, parce que évidemment, je l'ai lu intégralement 4 fois, dont la dernière pour les besoins du livre, justement. Donc ça s'est fait par palier, bien sûr. Mais Proust m'a offert, sur un plateau d'argent, cette double émancipation de mon milieu social et des contraintes qui pesaient sur l'homosexualité.
Vous avez publié Laure Murat, La maison du docteur Blanche, histoire d'un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant. Pensez-vous que les artistes soient plus sujets aux troubles psychiatriques ou à la mélancolie ?
Non.
Ah.
C'est un non très net. Il y a une confusion. Dans ces cas-là, tous les asiles psychiatriques seraient remplis d'artistes, c'est pas le cas. Non. Donc ça, c'est non.
Vous avez enseigné aux Beaux-Arts, puis vous avez été invité pendant un an à l'université de Princeton et durant votre thèse, avant d'obtenir un poste à l'université de Californie, à Los Angeles. Vous avez enseigné pendant 20 ans à Los Angeles.
Oui.
Vous venez d'en partir ?
J'en partirai en 2026, mais dans les faits, je n'enseigne plus.
Donc, à cause de Trump ?
Pardon ?
À cause de Trump ?
Oui, quand il a décidé de se représenter, c'est-à-dire en 2022, j'ai demandé à l'administration quelles étaient les possibilités pour moi de prendre une retraite très anticipée quand même. Et j'ai vu que c'était possible. Donc je rentre aussi parce que je peux le faire. Et bien m'en a pris parce que la situation est très grave et très angoissante. Ces derniers mois, j'ai préparé mon retour, donc j'étais triste, j'étais dans une sorte de deuil. J'aime beaucoup la Californie, j'aime Los Angeles, etc. Et je ne pensais pas qu'en rentrant en France, je tenais absolument à atterrir le 1er mai, ce que j'ai fait. Et en atterrissant en France, j'ai ressenti comme un soulagement. Un soulagement de ne plus être sous cette chape de plomb qui, de toute façon est là. Hein, mais vivre dans le pays en ce moment, c'est très pénible. Et j'ai une pensée émue pour tous mes amis qui subissent ça.
Quelles sont les différences majeures culturelles ou de pensée que vous avez notées pendant ces 2 décennies entre la France et les États-Unis ?
Je suis très reconnaissante aux États-Unis de m'avoir ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il y a aux États-Unis quelque chose que j'appellerais le sentiment démocratique. Aujourd'hui, on a du mal à le croire. Mais quand on se promène dans la rue, quand on rencontre des gens, il y a quelque chose aux États-Unis qui fait que on ne regarde pas, les gens ne vous regardent pas comme s'ils étaient d'en bas ou d'en haut. Il n'y a pas de surplomb ou d'attitude admirative. Il y a un dialogue qui s'instaure directement entre un citoyen A et un citoyen B. Et ça, c'est une sensation, c'est de l'ordre de la sensation. Quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est sur le féminisme et tout ce qui s'attache aux questions de genre, de théorie critique de la race. Tout ça m'a passionnée, et me passionne encore, bien sûr. Et j'ai essayer d'apprendre à intégrer aussi toutes ces théories dans ma pratique quotidienne.
Est-il vrai que ce qui se passe aux États-Unis arrive en France quelques années plus tard ?
Oui.
Comme beaucoup le disent.
Oui.
Ah, donc c'est très inquiétant.
Alors là, oui, ça c'est certain. En tout cas, en ce qui concerne ces fameuses guerres culturelles, il est certain que des sujets de préoccupation qui naissent aux États-Unis finissent par arriver en France, presque systématiquement.
Vous avez écrit sur la cancel culture et vous préférez appeler ça une culture de la protestation.
Oui, ou de la responsabilité, comme on veut.
L'annulation n'existe pas ?
Si, bien sûr qu'elle existe, mais je trouve qu'on l'a énormément exagérée. Si on prend la liste de ceux qui auraient été supposément annulés, on se rend compte que l'annulation, ça ne veut plus dire grand-chose. La cancel culture ou le wokisme d'ailleurs qui se confondent ou qui se recoupent en tout cas sont des mots parapluies si vous voulez pour au fond désigner des choses qui existent déjà. Des actions politiques comme le boycott, c'est un droit politique le boycott. Le déboulonnage des statues, ça s'appelle du vandalisme. Depuis le sac de Rome, on sait ce que c'est. Donc vous voyez, ce sont des choses qui existent déjà, mais auxquelles on donne des noms qu'on prend bien soin de conserver en anglais pour désigner l'épouvantail américain. Et simplement, ce sont des termes instrumentalisés par la droite et l'extrême droite pour dénigrer les actions progressistes que certaines personnes voudraient avancer, c'est tout.
Est-ce que dans tout progrès social, il y a forcément des dérives ?
Après, c'est une question d'interprétation. Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle les dérives du wokisme ? Toutes ces questions demandent à être analysées en détail, parce que bien souvent, on se contente de jugements à l'emporte-pièce en disant « mais oui, regardez, les réseaux sociaux, on est annulés, c'est affreux ». Alors, on parle de généralité et on ne descend pas dans le détail. Donc, des dérives, il y en a partout. C'est comme si vous me demandiez « est-ce que MeToo, dans MeToo, il n'y a pas des dérives ?» Alors oui, parce qu'on a dit que quand on touche l'avant-bras de quelqu'un, on va lui faire un procès, etc. Mais très souvent, vous vous rendez compte que, un, c'est faux, deux, c'est très exagéré, trois, il y a plein de désinformations. C'est quoi le propos de MeToo ? Le propos de MeToo, il est très grave, il est très important. C'est une révolution sexuelle dont je me félicite tous les jours. J'aurais jamais pensé un jour que je pourrais vivre une chose comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne fait que commencer.
Qu'est-ce que c'est le wokisme pour vous ?
Bah, c'est rien du tout. Alors là, le wokisme...
Parce qu'en fait, ça veut dire être éveillé, finalement. Tout le monde devrait être éveillé.
Bah, bien sûr. Moi, je préfère être éveillé qu'endormi. Ça, c'est certain.
Mais quand on emploie le mot, c'est pour parler des dérives.
Pardon ?
Quand on emploie le mot wokisme, c'est pour parler de ces dérives.
Oui, il n'y a que les ennemis des dits progressistes qui parlent de wokisme ou de woke, bien sûr. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se revendiquent woke. Vous voyez, c'est pas... Une fois de plus, je crois que c'est un mot écran. Voilà.
En tout cas, vous n'êtes pas pour cacher ce qui dérange, comme on va le voir, et vous reconnaissez la complexité des choses, ce qui est plaisant. Par exemple, les différents courants du féminisme. Vous dites, beaucoup de femmes se revendiquent féministes, mais elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Est-ce que ces différents courants peuvent quand même s'entendre ? Parce qu'on a l'impression parfois qu'elles se déchirent entre elles.
Oui, mais enfin, elles sont d'accord quand même sur l'essentiel.
Oui.
Hein, alors, on essaye toujours de dire, il y a le féminisme américain, le féminisme à la française, le féminisme universaliste, le féminisme marxiste et matérialiste. Bon, tout ça, c'est vrai. Mais c'est un peu comme le Parti socialiste, hein, y a des courants. Voilà.
Est-ce que vous pourriez lire le début de votre dernier ouvrage « Toutes les époques sont dégueulasses », réécrire, sensibiliser, contextualiser, paru chez Verdier ?
Oui. Faut-il réécrire les classiques de la littérature ? Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités ? Faut-il adapter les classiques à leur époque ? Réécriture de romans, une histoire ancienne ? Difficile ces derniers temps de ne pas tomber sur ces questions pointant ici la nécessité de réviser le sexisme de James Bond et le racisme d'Agatha Christie, ou là l'antisémitisme de Roald Dahl en remplaçant des termes jugés offensants pour les minorités. Dans cet espace politique et polémique que sont les guerres culturelles, deux clans s'affrontent. D'un côté, on tempête contre une censure nouvelle, on dénonce la moraline tous azimuts et une réécriture de l'histoire sous la pression d'une minorité tyrannique, tout droit sortie des campus américains, cet épouvantail yankee où s'épanouissent wokisme, pensée décoloniale et cancel culture. De l'autre, on justifie la réécriture des classiques en rappelant qu'elle a toujours existé et en s'élevant contre le mythe de l'original, qui serait sacralisé en France particulièrement. Mais à force d'être monté en épingle par les médias, à coups de confrontations houleuses où chacun campe sur ses positions, la controverse a fini par échouer là où s'enracinent peut-être ses origines, dans une impasse. Je ne me reconnais nulle part dans ce débat.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Laure Murat, vous publiez « Toutes les époques sont dégueulasses », un titre qui vient d'une citation d'Antonin Artaud.
Oui.
Vous le pensez ? Toutes les époques sont dégueulasses ?
Oui, je le pense. Ça veut aussi dire qu'aucune ne l'est, hein, d'une certaine façon.
Ou qu'aucune ne l'est plus qu'une autre.
Voilà.
Alors, j'aimerais que vous, si vous êtes d'accord, bien entendu, fassiez un point pédagogique sur deux mots, réécrire et récrire, avec un seul E.
Alors, c'est une petite astuce, en fait, que j'ai trouvée pour distinguer deux opérations qu'on a tendance à mélanger. Et je pense que c'est là que s'origine la confusion qui règne dans cette question de « doit-on réécrire les classiques, oui ou non ?» Je profite de ces deux façons d'orthographier la réécriture. On peut dire « réécrire » ou « récrire ». Et ça fonctionne pour le substantif « réécriture » ou « récriture ». Donc, je propose la distinction suivante, mais c'est moi, évidemment, c'est pas dans la définition des mots, hein. Pour distinguer deux opérations, la première qui serait la réécriture, qui est celle au fond que pratiquent les écrivains quand ils écrivent. Hein, on dit écrire, c'est réécrire, bien sûr. Quand on écrit un livre, quand on l'adapte au cinéma, quand on le traduit, donc il y a une opération, ou même quand Racine s'inspire d'Euripide pour réécrire Phèdre, par exemple. Bon. Tout ça, ce sont des opérations littéraires à visée esthétique. On comprend ça très bien. Et évidemment, il ne viendrait à l'idée de personne de dire on ne peut pas toucher à ce classique, on ne peut pas l'adapter au cinéma, on ne peut pas en faire une pièce de théâtre, etc. etc. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième série d'opérations, que j'appellerais donc la réécriture, qui consiste un peu à toucher le texte, mais pas du tout de la même façon. Et là, c'est plutôt une opération de correction qui vise à rendre le texte conforme à nos exigences contemporaines. Et c'est surtout une opération morale, de correction morale. Donc là, il n'y a plus de visée esthétique, hein. C'est uniquement une question de nettoyage des textes sur des critères contemporains. Donc, c'est deux opérations vraiment très différentes.
Stop! Look! He's gunning for trouble. 007. It spells Bond.
« 1964, Goldfinger » de Guy Hamilton, adaptation du roman de Ian Fleming paru en 59. Et on l'apprend sous votre plume, Laure Murat, dans lequel on trouve notamment, par exemple, cette remarque sur les Coréens qui seraient inférieurs aux singes dans la hiérarchie des mammifères. Il y a aussi Casino Royale, où on trouve l'expression « la saveur piquante du viol ». Donc la question est la suivante, faut-il supprimer les choses dérangeantes dans les œuvres de fiction ?
Dans le cas de James Bond que vous citez, toutes ces expressions n'ont pas été supprimées. On a édulcoré tout ce qui concernait la communauté noire, et c'est sûrement très bien, mais on a laissé tout ce qui concerne les femmes, les Coréens, etc. Alors, je pose la question, où est la cohérence de ces corrections ? Alors, faut-il, si on veut reprendre la question depuis le début, est-ce qu'il faut corriger les textes pour qu'ils soient lisibles à nos yeux contemporains. Je crois que la question pose un gros problème. Parce que si vous nettoyez les textes des sujets qui fâchent, des mots qui fâchent, vous aboutissez à une falsification et un mensonge historique qui a pour conséquence très grave de priver les opprimés de l'histoire de leur oppression. Donc, supprimer les remarques misogynes de James Bond et ses actions, parce qu'il faut aussi toucher à l'intrigue, ce qui devient quand même nettement plus compliqué. Faites-en un proto-féministe, il y a beaucoup de travail, et vous ne comprendrez plus rien à la misogynie des années 50 et 60. Et je crois que ce n'est pas une bonne idée.
Agatha Christie, le maître du suspense.
Regardez !
Après le crime de l'Orient Express, l'extraordinaire Agatha Christie nous offre maintenant le plus célèbre, le plus insolite de tous ses romans policiers. Dix vinaigres. Qui sera la prochaine victime ? Qui sera tué ? Une histoire palpitante avec dix vedettes internationales. Winston Churchill
Mesdames
a dit
«
Agatha Christie est la femme à qui le crime a le plus rapporté depuis Lucrèce Borgia ».
Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, adapté pour le cinéma en 1974 par Peter Collinson, donc toujours sur ce titre. Et Laure Murat, je vais vous demander évidemment de nous parler du titre de ce polar d'Agatha Christie. Agatha Christie, dont l'œuvre est parsemée de remarques racistes. Mais vous dites justement que, par exemple, quand on lit un monologue d'Hercule Poirot qui décrit un personnage en s'exclamant « un juif, bien sûr », vous dites « en tant que lectrice, n'est-ce pas utile que je connaisse les préjugés antisémites du détective belge ?»
Par exemple, par exemple. Alors, évidemment, ces questions, on ne peut pas les trancher de façon radicale et définitive. Qu'on remplace le titre « Les Dix Petits Nègres » par « Ils étaient dix ». Alors, je rappelle que dans les deux cas, c'est issu d'une chanson qui devient une ritournelle dans le livre.
Dix bon, petits indiens.
C'est trop long d'expliquer
le détail. Vous l'expliquez bien dans le livre.
Voilà. Donc, d'enlever du titre, d'une couverture, le mot « nègre », qui est un mot insultant, je le rappelle, ça me paraît plutôt bienvenu. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Je décris dans le livre les opérations successives de nettoyage. Et évidemment, il y a un effet de concaténation, parce que vous enlevez un mot, il faut en enlever un deuxième, puis un troisième, puis modifier l'intrigue, puis. Et à la fin, alors que Agatha Christie soutenait était favorable à l'idéologie coloniale, on se retrouve avec quelque chose qui veut dire presque l'inverse. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une préface ? Est-ce qu'il faut pas mieux faire un appareil critique ? Ce sont des questions ouvertes. Je ne veux pas donner une solution. Je veux encore moins prononcer un jugement définitif. Je n'ai qu'un seul principe, c'est que je suis contre la censure. C'est la seule chose qui me tient.
Mais c'est en ça que c'est intéressant, puisque vous écrivez « On ne s'attaque pas à l'inconscient collectif ou à l'esprit du temps par des interventions ponctuelles et cosmétiques ». Et vous dites, alors c'est un paragraphe qui, moi, évidemment, m'a un peu fait bondir, vous dites « Dès lors, où est la solution ? Elle est très simple. Vous jugez James Bond sexiste, Agatha Christie raciste et démodée. Arrêtez de lire les auteurs qui vous dérangent et qui perpétuent les stéréotypes. Tournez-vous vers des livres contemporains qui ne baigneront pas dans l'atmosphère des années 30 et les relents de la xénophobie. » Et alors, évidemment, là, bah, moi j'ai bondi parce que je me suis dit, bah non, on ne peut pas se couper de tant de chefs-d'œuvre. On doit les lire en sachant, évidemment, en ayant la préface, on en parlera tout à l'heure. Mais un peu plus tard, vous donnez l'exemple de, par exemple, Joyce Carol Oates, qui était exaspérée par, justement, le fait qu'on fasse des campagnes de révision sans cesse et qui a tweeté « Next, Louis-Ferdinand Céline ». Donc vous le comprenez en même temps, puisque vous dites que pour vous, censurer tout ça, c'est une haine de la littérature.
Ah, je crois que, oui, tout au fond, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis quand même, quelle prétention de vouloir intervenir dans des textes d'auteurs morts, quand on sait le soin que les auteurs prennent à chaque virgule. Ça me semble déjà outrecuidant, enfin absolument effrayant. Et surtout, ça ne va pas faire avancer les choses. C'est ça mon souci principal. Ça ne va pas faire avancer les choses. On le voit très bien. Je montre, je crois, assez précisément les incohérences de toutes ces corrections. Je ne crois pas du tout que le lecteur se sente soulagé. Il lit quelque chose qui est vaguement entortillé, vaguement dépoussiéré, nettoyé. Et au fond, il n'a aucune idée de l'objet qui tient entre les mains.
Mais donc, quand vous dites « ne lisez plus ces livres, lisez les contemporains », vous ne le pensez pas ?
Il y a un peu de provocation de ma part. On m'a dit « mais vous êtes simpliste ». Mais j'assume. ce que je veux dire par là, c'est que... Alors, après, les gens me demandent « ah oui, mais qu'est-ce que vous faites avec Gauguin, avec Serge Gainsbourg ?» Mais écoutez, on a envie de dire « laissez-les là où ils sont ». Je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur le statut de l'œuvre d'art, et ça c'est très important, qui s'est, comme on sait, émancipé de tout programme idéologique, religieux, moral, au moment du romantisme. Et c'est quand même là-dessus qu'est fondée notre modernité. Donc ça, il va falloir le repenser dans la mise en perspective de l'esthétique et de la morale. Ça, c'est certain. Mais pour l'heure, ce que je pense profondément, c'est que on a beaucoup plus intérêt à regarder la poutre qui est dans notre œil et dont se moqueront les gens dans 30 ans. Vous voyez ? Mais vous faire attention à nos propres préjugés.
Vous écrivez, il appartient au XXIe siècle de relever ce défi sur les conflits de l'art et de la morale. L'art doit-il être moral ?
Non, l'art ne doit pas être moral.
Merci.
Non, l'art ne doit pas être moral. C'est pas son but, c'est pas sa visée, c'est pas sa nature. Non. En revanche, qu'il y ait des questions morales qui se posent dans la visée esthétique et politique d'une œuvre, ça, c'est certain. Moi, aux États-Unis, où justement les anti-woke essayent de me faire dire que je ne pourrais rien dire dans la salle de classe, qu'on est tous corsetés, etc., je défends Lolita, par exemple, qui est un très grand livre.
Est-ce qu'on peut encore être un vieux dégueulasse tranquille comme Bukowski ?
Alors ça, c'est une excellente question. Il se trouve qu'il y a 3 semaines, je n'avais jamais lu John Fante, qui est proche de Bukowski à plein d'égards. Et comme je m'intéresse à la question animale, j'ai vu que John Fante avait écrit un livre qui s'appelle « Mon chien stupide ». Donc j'ai lu ce texte. Et bon, alors évidemment, il se décrit comme un ivrogne, quelqu'un qui en a ras-le-bol de ses enfants, etc., etc. Il fait le gros dégueulasse, hein, justement. Remarque misogyne, évidemment, bon. Et à la fin, il veut obtenir quelque chose de sa femme, enfin, et il lui donne de la drogue. Elle est complètement inconsciente à la fin et il la viole. Et il raconte tout ça. Alors, il, c'est le personnage.
En fait, j'ai parfaitement oublié.
Ah.
C'est fou, parce que j'adore Fante, j'ai tout lu.
Voilà. Et à la fin, donc, elle est totalement inconsciente. On sort de l'affaire Pellicot, hein, je vous rappelle.
Oui.
Elle est totalement inconsciente, il la viole et il dit « Je n'ai jamais joui comme ça, c'était extraordinaire, etc. » Alors, j'ai beau savoir qu'on est dans un espace de fiction, que le personnage principal n'est pas nécessairement l'auteur, etc., etc., eh ben, j'ai laissé tomber le livre parce que je ne peux plus lire ces choses-là. J'en ai assez.
Je comprends.
Mais je ne demande pas à ce qu'on censure John Fante. C'est ça la différence.
Je comprends que vous en ayez assez et je peux aussi comprendre les lecteurs qui ont justement une jubilation dans la transgression de l'ordre moral, dans la fiction uniquement, évidemment.
Oui,
j'ai trop d'empathie, je comprends tous les partis.
C'est des histoires compliquées.
Oui. Quand vous dites qu'aujourd'hui, on essaye de réécrire les livres qui heurtent la sensibilité contemporaine, qu'est-il devenu, je veux dire, pourquoi cette sensibilité contemporaine a-t-elle tant évolué ? Est-ce qu'on est devenu trop sensible ? Est-ce qu'on est devenu trop moraliste ?
Alors, ça... Non, je ne crois pas. Je crois que on se réveille très lentement à des questions gravissimes qui sont l'héritage de l'Occident, qui sont l'esclavage, qui sont la ségrégation, qui sont la misogynie, jusqu'à MeToo, justement. Et je crois que ça n'est pas du tout anodin que tout ça arrive depuis, en réalité, MeToo et Black Lives Matter. Je crois qu'on finit par ouvrir les yeux sur un héritage très problématique et sur le fait que cet héritage infuse encore dans notre société et dans le monde entier, comme vous pouvez le constater en écoutant la radio tous les matins.
Elena, hami chogoni, o ramo gomina ala nimo gotiani to gotia narungo ramo gomina ala nimo gontanya ni to gontanya adiaranela abi ala ni furukenyu mantigia Bengano nyon fo sheri sheri Kan furo nyon fo kabari Kada furo kunye jigi minye Aha no jigi amina fara Oka fo
Rokia Traoré, le morceau Mbifo, c'est votre choix musical, Laure Murat.
Oui, j'adore Rokia Traoré. J'aime toutes ses chansons.
Il y a une mélancolie douce dans cette chanson.
Oui. Mais alors, j'ai regardé Mbifo, je crois que ça veut dire merci. Et elle remercie la personne qu'il aime. Et je trouve ça très beau.
En parlant d'être aimé par un autre être, vous avez choisi comme découverte pour les auditeurs un livre sublime qui déchire le cœur, un livre illustré, c'est « Jim » de Françoise Cuitaine, paru chez Rue de Sèvres. Et alors, il faut dire que le dessinateur a perdu son chien, et il est en deuil de son chien, et il le dessine comme un fantôme qui vient lui rendre visite, qui l'aperçoit comme une ombre à chaque fois. Enfin, je vous laisse nous en parler. Moi, c'est un livre qui m'a évidemment fait pleurer.
Non, mais vous en parlez très bien. C'est en effet à la fois un fantôme, mais surtout une ombre, en effet. Et on voit l'image du chien qui, à la fois, prolonge l'ombre du maître, hein, enfin, ou en tout cas, de l'humain qui s'occupe du chien, qui s'occupait du chien. Et une sorte de présence-absence, comme ça, qui est rendue d'une façon extrêmement poétique dans le dessin, puisque c'est uniquement un livre de dessin, et c'est extrêmement poignant. J'ai adoré ce livre.
Je ne lis pas Tintin, je les ai lus au début. Mais voyez, l'autre jour, dans l'avion, j'ai lu Tintin quand même pour voir, et j'ai trouvé un méchant, là, dans Tintin... Les pharaons, je crois, qui avait le teint basané, un nez un peu boursouflé, et qui s'appelait Rastapopoulos. Ça m'a glacé, vous voyez. Monsieur Hergé, nous avons discuté tout à l'heure, je lui ai dit très sincèrement, j'ai pas du tout, j'avais pas envie de l'agresser.
Mais je crois que si on prend tous les albums, il y a des méchants au teint basané, mais il y a des méchants au teint blanc aussi. Par exemple, voilà. Il y en a d'autres. Non, c'est un univers de caricatures qui se déroule dans un monde qui est peut-être le nôtre, mais c'est un univers de caricatures. Et tous sont caricaturés. Il y a de méchants colonialistes dans mes Tintins. Il y a de méchants blancs aussi. Enfin, ça, je crois qu'il y a tout.
On entend Hergé et André Clair en 76 sur Antenne 2. Vous parlez du cas Hergé Laure Murat dans votre livre « Toutes les époques sont dégueulasses ». Il rappelle à chaque fois que ces personnages sont des caricatures. Enfin, vous rappelez aussi que, par exemple, dans « L'étoile mystérieuse », le financier véreux s'appelait Blumenstein et il a changé de nom.
Il a changé de nom pour un autre non-juif. Il
Mais pensait sans, que sans un... qu'Hergé s'en rende compte.
Voilà. Et le personnage a gardé son ébusqué, son teint olivâtre, ses lèvres épaisses, etc. etc. Alors, il y a des caricatures qu'on fait à une certaine époque. Là, c'était quand même 1942. C'est-à-dire qu'en réalité, il donne au banquier les traits du juif. Alors, deux caricatures de « Je suis partout » et de toute la presse antisémite. C'est quand même, en 1942, c'est extrêmement grave de faire ça.
Il y a eu aussi Tintin au Congo. Bah, Hergé a été accusé de collaboration à la Libération, mais dès 1946, son interdiction de publier a été levée.
Bah, c'est-à-dire qu'il était il travaillait pour l'abbé Wallace, qui était un fasciste, et qui, lui, a fait 5 ans de prison à la Libération. Hergé était un grand admirateur de Maurras. Et une fois de plus, moi je ne suis pas là pour faire le procès d'Hergé, ça m'est égal d'une certaine façon. Mais enfin, il faut quand même, on ne peut pas... on ne peut pas séparer, là pour le coup, les convictions politiques d'Hergé et ce qui se traduit peut-être aussi dans son dessin.
Mais ce qu'on découvre, c'est qu'il y a du racisme et de l'antisémitisme aussi chez Victor Hugo, même chez Émile Zola, qui a pourtant rédigé J'accuse. Et on peut aussi réfléchir au fait d'être le produit de son époque. Et là, vous citez Simenon, qui lui a évolué.
Alors, dans l'histoire de Tintin au Congo, bon, tout ce qui se passe au Congo, évidemment, je vous rappelle, 10 millions de morts, hein, quand même, bon, dans cette opération de colonisation. À la même époque qu'Hergé, hein, 1931, je crois, Tintin au Congo, il y a Georges Simenon qui va au Congo et qui fait un rapport absolument effrayant, ou André Gide, qui fait son retour du Tchad, où il est passé par le Congo, et où il dit la même chose. Donc, on peut aussi se rendre compte de ce qui se passe, si on veut vraiment savoir. Maintenant, le fait qu'Hergé ait été un homme de son temps, bon, mais ça, comme beaucoup de gens, c'est vrai aussi. Je cite dans le livre les chiffres de l'exposition coloniale, où il y a eu 8 millions de visiteurs. L'exposition anticoloniale organisée par les surréalistes, il y a eu 4000 visiteurs. C'est ça le rapport.
Alors, vous êtes contre la censure, mais vous proposez une troisième voie, qui est la contextualisation. Et donc, la meilleure solution apparente, c'est la préface, puisqu'on a aussi la liberté de la lire ou de ne pas la lire.
Exactement. Et elle met... elle analyse la préface, enfin, idéalement. Elle analyse le contexte, justement, cette fameuse idée qu'on est un homme de son temps ou une femme de son temps. Quels sont les problèmes que ça pose? Je regrette que dans la préface de Philippe Gonin, qui est un grand spécialiste d'Hergé, il ne fasse absolument pas mention des autres auteurs de bandes dessinées qui représentaient des Noirs à l'époque, par exemple. Parce qu'on aurait vu là une différence qui aurait d'ailleurs peut-être été à l'avantage d'Hergé. On n'en sait rien. Et ça, c'est toujours un peu dommage, parce que Philippe Gonin justifie Hergé uniquement en disant qu'il était un homme de son temps, ce qui me paraît trop court.
Alors, il nous reste quelques secondes. J'aimerais bien que vous disiez un petit mot sur Ourika de Claire de Duras, publié en 1823 et évoqué dans La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire.
C'est un très grand texte. Pour moi, c'est un texte très passionnant. L'histoire d'une petite fille noire qui vient du Sénégal, qui a été enlevée au Sénégal, à sa mère, esclave bien entendu, et donnée, entre guillemets, à une aristocrate blanche. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je recommande aux auditeurs et aux auditrices de lire ce texte. C'est assez court, c'est un petit roman ou une longue nouvelle. Et Ourika est censé être le premier texte dans la littérature française qui donne la parole à une jeune fille noire et donc lui octroie une subjectivité.
Merci beaucoup, Laure Murat.
Merci à vous.
Toutes les époques sont dégueulasses. Réécrire, sensibiliser, contextualiser est paru aux éditions Verdier. Vous serez le 12 juin prochain à la librairie Les Ombres Blanches à Toulouse. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfoise, Betty Algray et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Benjamin Wagon. À demain, 20h10.